Vous écoutez
RMC.
Bon, écoutons Carlo Ancelotti, justement. Débat dans le débat, il a été interrogé sur la liberté à accorder à ses joueurs, aux joueurs de manière générale, et notamment sur la notion de créativité. Est-elle encore possible aujourd'hui? Sinon, pourquoi et à qui est-ce la faute? Écoutez l'entraîneur du Real Madrid.
L'erreur que font les entraîneurs de la nouvelle génération, c'est qu'ils donnent trop de consignes aux joueurs quand ils ont le ballon sur leur position et ça bride leur créativité. C'est une chose de donner des consignes sur le positionnement sans ballon. Dans ce cas précis, tu dois donner beaucoup d'informations aux joueurs parce que sans ballon, comme je le répète souvent, il faut de la concentration, du sacrifice, du jeu collectif. Mais avec le ballon, ça dépend de la créativité du joueur.
Alors, il ouvre un sujet intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir appartient de manière démesurée aux entraîneurs, aux tacticiens, aux systèmes, plus qu'aux joueurs à l'époque? Polo parlait des années 70, des années 80, voire 90. Fred, tu commences, et après je fais tourner la parole, bien sûr.
Pour compléter ce que dit Carlo, et je suis bien sûr d'accord avec lui, un jour, on parlait de système. Il me dit, mais tu sais, un système, c'est un dessin qui est sur le tableau. Quand un joueur en fin de deuxième période est un peu fatigué, pendant un moment il se perd un peu dans le match, il se souvient du dessin qu'il y a sur le tableau. Il exagère un petit peu, mais voilà, c'était pour le truc, parce qu'il voulait surtout pas enfermer les joueurs dans un système et dans un... Voilà, c'est quelqu'un qui veut favoriser la créativité. Moi, au-delà de la créativité, je pense qu'il y a un mot qui est plus important que la créativité, c'est la liberté du joueur sur la pelouse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs qui font beaucoup de discours, qui prépare très bien les matchs, c'est super, etc. Mais qui peut-être laisse un petit peu moins de liberté aux joueurs. Ce qu'on a pu voir à un certain moment avec Guardiola, qui est quand même...
En phase de possession, je précise.
C'est-à-dire que Guardiola, on a vu parfois son équipe, il a un peu corrigé, ou quand le plan établi par Guardiola n'était pas exactement celui qui était prévu, que les joueurs pouvaient être un peu perdus et qu'il y avait moins peut-être de... Les joueurs assumaient peut-être moins leur responsabilité spontanément à un moment parce que c'était le scénario n'était pas celui qu'avait préparé l'entraîneur. Moi, je me souviens d'une discussion qu'on avait eu un jour avec Zidane et Bettoni. Et Zidane disait, mais franchement, la BBC, Benzema, Bale, Cristiano, je leur donne jamais aucun conseil en attaque. C'est-à-dire, ils n'ont aucune consigne sur l'attaque. Il me dit, c'est pas moi qui vais leur dire comment il faut marquer un but. Ils n'ont pas besoin de moi. C'est naturel chez eux. Par contre, quand on perd la balle, chacun a une consigne. Chacun sait ce qu'il doit faire pour essayer de récupérer, pour gêner la contre-attaque, etc. Mais au niveau offensif, il faut laisser la liberté aux joueurs qui ont les capacités de
oui,
le faire.
Oui, alors Fred, lui avait ce luxe-là d'avoir des grands joueurs devant.
Mais bien sûr.
Tu vois, il s'est un peu planté à Everton, aussi un petit peu à Naples.
Je te parle de Zizou.
Zizou, c'est la même philosophie
qu'Ancelotti. Je vais quand même pas expliquer à Christian Lando.
C'est plus facile.
Oui, mais excuse-moi, un buteur, même un Rossellou, j'ai une connerie, Rossellou, il sait très bien où mettre sa tête quand il y a un centre. Tu vois ce que je veux dire? Tout n'a pas besoin d'être inscrit dans un scénario. Et moi, je suis d'accord avec Ancelotti. Il y a aujourd'hui chez un entraîneur une volonté de maîtrise absolue d'un scénario qui enlève de la liberté aux joueurs.
Bon, qui veut réagir?
Moi, je veux bien.
Vas-y, Johan.
Parce que quand on a vu la déclat d'Ancelotti, moi, j'en ai parlé avec des entraîneurs et tous m'ont dit, on peut être d'accord sur une petite partie avec Ancelotti, mais il est bien gentil, Carlo. On n'a pas tous Vinicius et Rodrigo devant et oui, pour compter sur leur créativité individuelle. Aujourd'hui, quand tu es entraîneur de Lorient, t'as pas Vinicius devant, donc tu laisses pas faire tes attaquants parce qu'ils ont pas la même qualité individuelle devant. Ce qui est évident, c'est que c'est toujours le joueur qui prend la décision sur le terrain. Le rôle d'un entraîneur aujourd'hui, de manière générale, après on peut être d'accord ou moins avec la définition que je donne, mais c'est de créer une sorte de langage commun, une pensée commune, présenter des situations, je parle que avec ballon, hein, évidemment, puisque sans ballon, ça fait un peu moins de débat.
Bah oui.
Présenter des situations offensives, des réponses adaptées, et après, c'est toujours le joueur qui va décider quoi faire à l'instant T. Mais pour qu'il puisse décider, qu'il soit en capacité de prendre la même décision, il faut l'amener à réfléchir sur des situations données à l'entraînement, des situations avec ballon. Quand le ballon il est à l'opposé, qu'est-ce que je fais? Quand le ballon est de mon côté, comment je propose une solution?
Mais ça, c'est normal.
Quand le ballon s'est pierreté,
l'entraînement,
comment je me positionne, etc. Donc tout ça, c'est pas juste de l'instinct. Alléluia, et les joueurs se débrouillent,
mais non,
en fait.
Mais là, tu décris un entraînement, Johan. C'est l'entraînement, c'est ça, bien entendu. C'est bien sûr.
Polo.
Bah oui, mais là. Bah,
le match, c'est ce que tu fais à l'entraînement. Hein.
Oui.
C'est un vaste sujet. Moi, je dis toujours pour me marrer que si le football ressemblait, globalisé, ressemblait à ce que fait Salzbourg, Maradona n'existerait pas. C'est-à-dire que la créativité, et c'est tout le problème aujourd'hui, je trouve, de l'évolution technologique, des data qui sont à la fois passionnantes parce que ça t'apporte une multitude d'informations que tu n'avais pas forcément vues, etc. Mais on m'explique que depuis 20 ans, 25 ans, les data, les ceci, c'est de l'aide à la décision. Moi, je ne connais pas un secteur d'activité où l'informatique arrive et ça ne reste qu'une aide à la décision, c'est qu'au bout d'un moment, c'est elle qui fait la décision. Donc le problème de la créativité, et encore une fois, le football a beaucoup évolué, les joueurs aujourd'hui, c'est des vrais sportifs de haut niveau, c'est des performeurs, comme je dis souvent, c'est-à-dire qu'ils vont et ils courent tous le 100 mètres en 11 secondes quand c'est pas 10-50, ils ont une technique de dribble qu'on n'avait pas vu ça, qu'on voyait pas ça avant, etc. Et aujourd'hui, le collectif, paradoxalement, je le trouve... c'est la priorité des priorités. Alors on pourrait dire, si j'emploie un terme que j'ai entendu encore dernièrement sur le documentaire de Beckham, là, Cucula Praline, qui est passé sur Netflix, où il parlait, c'est un football, mais c'est spécifique aussi culturel de l'Angleterre, qui dit c'est un football socialisant avec Ferguson. Je parle sous le contrôle de Julien, socialiste pardon, qu'ils utilisent ça en Angleterre, qui a, je pense, pas forcément la même définition qu'en France notamment. Et en fait, ce collectif ne permet plus d'erreurs tellement les joueurs vont vite. Par exemple, tu vois, on n'a pas eu le temps d'en parler dans l'after, de pourquoi est-ce que Thomas Tuchel cherche un 6 absolument au Bayern Munich. Mais c'est pas quand le Bayern a le ballon, c'est quand le Bayern n'a pas le ballon, justement. Et en fait, c'est pour éviter les risques. C'est qu'en fait, on se rend compte que pour aller chercher une Ligue des Champions, eh ben, tu peux être la meilleure équipe théorique sur le terrain, technique, ce que tu veux, etc. Et mais t'auras forcément dans tout ton parcours un moment où tu vas perdre le ballon au milieu de terrain et ton 6, il doit être là.
Mais ça, c'est bien, non? C'est depuis toujours, c'est comme ça.
Mais oui, mais sauf que là, ça devient une norme, ça devient, c'est ce qu'on oublie, parce que parfois, on fait plus de spectacles, on fait ceci et cela, et on revient à la base. Et moi, aujourd'hui, lorsque je parle d'homogénéité du football, c'est que, alors on peut trouver ça bien, par exemple, moi je regarde, à moins que Johan, mais je regarde un peu ce qui se passe dans les pays nordiques, je trouve que ça évolue d'une façon assez intelligente. J'arrive pas à comprendre pourquoi les Allemands produisent pas autant de joueurs que la Belgique, par exemple. Enfin, c'est quand même, il y a un rapport de 11 millions d'un côté à 80 millions d'habitants, donc c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Donc ces choses comme ça font que, derrière, je me trouve devant une homogénéisation qui m'intéresse pas. Et donc là, je reviens encore une fois dans le football d'avant. En 1991, Marseille perd contre une superbe équipe. C'était avant l'explosion de la Yougoslavie. C'était l'étoile rouge de Belgrade. Il y avait quasiment que des Yougos. Enfin, il y avait que des Yougos.
Avant l'arrêt Bosman, surtout.
Ouais, avant l'arrêt Bosman et ça. Et je vois ce qu'était le Bayern à l'époque. Mais cette demi-finale, elle va rester gravée. Donc, étoile rouge de Belgrade contre le Bayern Munich. C'est pas la question de savoir quelle était la meilleure équipe sur le terrain. C'est qu'il y en a eu un match où t'avais deux façons de jouer au football qui étaient différentes. Aujourd'hui, à part me dire bon ben ok, on sait faire des contres, alors on a la possession, on n'a pas la possession.
Combien de kilomètres parcourus par l'équipe, justement, voilà, c'est ça. C'est toutes les stats, des kilomètres parcourus qui reviennent également. Ouais, ouais. Julien également, j'entends là-dessus aussi, puisque ça le concerne également avec sa première ligue. Est-ce que toi tu constates qu'il y a moins de créatifs, par exemple dans le football moderne et dans ton championnat en particulier?
Pas du tout, moi. C'est pour ça que je comprenais pas trop en fait le débat. Mais je regarde les autres championnats et même si je vous rejoins sur quelques points, bon, je sais pas. Moi, j'aime que les entraîneurs jeunes ou vieux essayent d'avoir le contrôle à la perte du ballon quand ils ont le ballon. J'aime que on a fait un podcast. J'étais gentiment invité par Johan sur son podcast l'autre jour pour parler des herbies. D'ailleurs, il faut que tout le monde l'écoute. Hein, c'était ouais, pas parce que je suis dessus avec Johan, mais c'était fantastique. Calcio et Pépé, c'était vraiment bien sur des herbies. Et voilà, on a un petit peu décrypté tout ça. Moi, je trouve que c'est bien que des herbies, même si effectivement ça marche peut-être un petit peu moins bien, surtout défensivement cette saison, qu'il ait cette motivation, cette envie, cette ambition de faire que même à la perte du ballon, son équipe reste en contrôle, reste avec le contrôle du match. C'est-à-dire que peu importe où l'adversaire va aller avec le ballon, il y aura toujours un joueur de Brighton, il y aura toujours quelque chose, comme Guardiola peut le faire, comme Klopp essaie de le faire, comme Arteta essaie de le faire. Alors, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'on a de la chance en première ligue d'avoir ce genre d'entraîneur-là. Et le genre de joueur qu'on a aussi en championnat, bien sûr. Mais je sais pas, je trouve ça plutôt positif, moi.
Moi, Polo l'a un peu évoqué, mais la question physique a révolutionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, t'as plein de joueurs qui pourraient pas jouer, quoi. C'est tout. Il y a plein de joueurs qu'on a adorés dans les années 80 et 80 qui aujourd'hui ne pourraient pas jouer. Ronaldo Nazario aurait beaucoup de mal à jouer aujourd'hui.
Mais non, parce qu'il courrait plus, parce que
Mais je dis, je veux dire, mais à l'époque, le travail que faisait à l'entraînement, l'attitude qu'avait un Ronaldo Nazario, qui est l'un, pour moi, le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, aujourd'hui, il ne pourrait pas jouer.
Pourquoi?
Mais parce qu'il travaillait pas assez. Parce que physiquement, il était pas assez bon.
Mis justement au niveau des autres.
Mais je te dis, mais le Romario qui sortait jusqu'à 5 heures du mat, qui lançait 100 balles.
C'est-à-dire que les joueurs aussi sortent aujourd'hui. Hein.
Ils s'inquiètent pas.
Neymar aussi.
Tu parles d'un milieu de terrain un peu lent mais technique à l'époque des années 80, oui, qu'il aurait pas sa place aujourd'hui.
Les exigences. Non mais regardez, là j'ai l'impression de les exigences physiques il y a 30 ans et aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Comme disait Polo, ce sont des athlètes.
Il se serait adapté, Fred. Il se serait adapté. L'entraînement est différent aussi.
Mais c'est bien ce que, mais je te parle du
Ronaldo. Tu peux pas dire que Ronaldo pourrait pas jouer aujourd'hui. C'est pas possible.
Le Ronaldo Nazario, qui était le meilleur à l'époque, avec ce style-là, de travail physique.
Ronaldo de l'époque, je mets dans une capsule à remonter le temps.
Aujourd'hui,
je suis pas du tout d'accord avec toi.
Mais je suis pas d'accord.
Mais bien sûr que si, il pourrait jouer aujourd'hui. Mais bien sûr que si.
Mais tu as vu
que si, il pourrait jouer aujourd'hui.
Mais le mec.
Kylian Mbappé non plus, il défend pas, et alors il peut pas jouer aujourd'hui.
Mais c'est pas ça. Mais non, mais Mbappé, c'est un super athlète. Mais je veux dire, il y a un match au Real.
Mais Ronaldo, mais s'il avait voulu. Si on l'avait poussé à l'entraînement, alors à l'époque, l'entraînement, c'était pas des entraînements physiques.
Mais c'est bien Mais c'est bien ce que je dis. C'est que aujourd'hui,
bon,
mais aujourd'hui, ça s'adapterait, il jouerait.
Aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec l'exigence physique. Il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Ce que dit Julien, c'est qu'il se serait adapté à la nouvelle
époque. Bien sûr que oui.
Sinon, il serait bossé avec des GPS à l'entraînement tous les jours, avec des datas individualisées, tout ça, et qu'il serait sûrement au niveau.
Alors, quelqu'un dit, il étudie pas. Messi marche. Il y en a un qui marche, c'est Messi. C'est le seul qu'on a autorisé. À marcher.
Enfin, il marche vraiment maintenant depuis quelques années seulement.
Non, mais je veux dire le truc. Mais franchement, les exigences physiques, même l'alimentation, la médecine, ça n'a plus rien à voir.
Bien sûr, ça c'est un constat. Ça c'est un constat.
Le
suivi individualisé n'est plus le même qu'à l'époque.
Enfin, je veux dire,
c'est ce qu'on développe aussi. C'est un football de science aujourd'hui.
Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que quand on parle de la robotisation des joueurs, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne juge pas, mais simplement que aujourd'hui, un joueur est quasiment un robot étudié par plein de médecins, avec plein de calculs, avec plein d'informatique, avec une alimentation très précise, avec plein de trucs, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans. Je dis pas ça, je pose la question.
Allez.
Est-ce que cela favorise le football ou pas? J'en sais rien.
On poursuivra une autre fois, hein. C'est un débat qu'on aurait pu mener pendant deux heures.